Bonjour à tous, au sommaire aujourd'hui. Un titre, élection américaine, une histoire de flou. Nous allons gagner, dit Biden. Nous avons gagné, répond Trump, et le président sortant parle déjà de fraude du camp d'en face et menace de saisir la Cour suprême sans donner d'éléments concrets. La course se joue désormais dans quelques États. Avantage Biden dans le Wisconsin, Trump à ce stade en Pennsylvanie. Mais le long dépouillement à venir du vote, par correspondance notamment, rend tout pronostic hasardeux. Parmi les quelques certitudes, le vote pour Trump a été beaucoup plus massif qu'anticipé par les sondages. Le monde entier retient son souffle. En Europe, l'Allemagne juge la situation très explosive. Celle-ci, le scénario redouté par beaucoup, celui du gris, des avocats qui aiguisent leurs armes, de la crainte de violence. Nous sommes dans ce 13-14 à Washington, en Floride, qui a massivement voté Trump, en Pennsylvanie. Et avec nous, deux très fins connaisseurs de l'Amérique. Ils répondent à nos et à vos questions au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert, vous aurez la parole à 13h30. Dialogue avec l'historien Thomas Negaroff et la politologue Alexandra de Hoppscheffer. Amérique, un jour sans fin, c'est une édition spéciale de ce 13-14. Soyez les bienvenus.
France Inter. Le 13-14.
Température extérieure 6 degrés à Washington, 7h01 du matin. Le jour vient de se lever. Mais pour le résultat de la présidentielle américaine, on est encore dans le brouillard. Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour Bruno.
Correspondant de France Inter à Washington, on va détailler ce que l'on sait des résultats avec vous. Un mot d'abord, au fond, de ce que vous percevez du climat après cette très longue nuit électorale, Grégory.
Eh bien écoutez, les Américains se réveillent pour la plupart sans connaître le résultat de cette présidentielle. Et quand vous regardez par exemple les unes de la presse ce matin, il y a deux expressions qui reviennent. Suspense insoutenable avec l'image de gens qui se rongent les ongles d'inquiétude. Et puis l'autre expression qui revient dans pas mal de quotidiens ce matin, c'est la nation attend. On est littéralement dans l'attente.
Alors les résultats, ce que l'on sait déjà, premier constat Grégory, une participation historiquement élevée.
Oui, participation record, on sera sans doute autour de 66%, c'était 55% il y a 4 ans, et dans les résultats qu'on note, il n'y a pas de vague bleue, il n'y a pas de vague démocrate, contrairement à ce que certains sondeurs avaient pu prédire ou ce que le camp démocrate souhaitait. Ça veut dire que Trump a marqué des points là où il devait marquer des points, en Floride, au Texas, dans les États républicains du Midwest. La seule surprise, c'est que Joe Biden l'emporte en Arizona, qui n'avait pas voté pour un candidat démocrate depuis 1996, Bill Clinton.
Et le vote pour Trump a été beaucoup plus massif qu'anticipé dans certains États et dans le pays globalement. Hein.
Oui, globalement, 60 millions d'Américains avaient voté pour Trump en 2016. Aujourd'hui, avec les bulletins qui ont déjà été décomptés, on est à 66 millions, donc 6 millions de personnes en plus. Et effectivement, avec aussi des catégories de population qui visiblement ont été séduites par le discours de Trump. Je pense, par exemple, en Floride, effectivement, aux personnes d'origine latino, aux personnes d'origine cubaine qui ont apprécié les discours de Trump, notamment sur le danger de l'arrivée d'un socialiste à la Maison Blanche. Ce sont des mots qui portent dans ces États-là où il y a beaucoup de personnes venues de l'immigration de Cuba, du Venezuela ou d'Amérique latine.
Alors, la carte électorale ce matin, l'incertitude, la course, où se joue-t-elle désormais ?
Alors, sur ma carte, j'ai 5 ou 6 États qui sont en gris, donc ni rouge ni bleu. Je vous les donne, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie, Géorgie, et puis dans une moindre mesure Nevada, mais c'est surtout dans ces 3 États du nord-est, Wisconsin, Michigan et Pennsylvanie, que ça va jouer, avec énormément de bulletins de vote par correspondance qui n'ont pas encore été dépouillés. En Pennsylvanie, il y a 2,5 millions de personnes qui ont voté par courrier. Et hier soir, le gouverneur disait qu'il restait encore 1 million de bulletins à ouvrir. 1 million de bulletins qui n'ont pas encore été pris en compte.
1 million de bulletins pas encore ouverts. Merci beaucoup, Grégory Phillips. On vous retrouve un peu plus tard dans ce 13-14. J'accueille nos deux invités. Bonjour, Alexandra de Hoppscheffer.
Bonjour.
Politologue, directrice à Paris du cercle de réflexion German Marshall Fund of the United States. trois États à suivre, les trois États de ce qu'on appelle la ceinture de la rouille, hein, Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin. C'est là que ça va se jouer.
Complètement, puisque la Floride et le Texas, donc les États du Sud, sont acquis à Trump. Maintenant, tous les regards sont virés vers exactement le nord-est, cette Rust Belt, ces trois États, dont la Pennsylvanie, qui pèse quand même pas mal, puisque ça représente 20 grands électeurs, est devenu finalement le focus de ces dernières heures ou derniers jours de l'élection présidentielle. Mais c'est vrai que moi, ce qui me frappe, c'est, comme vous l'avez dit en introduction, c'est vraiment le soutien massif, en fait, à Donald Trump, hein, qu'on a totalement sous-estimé des deux côtés d'ailleurs de l'Atlantique, aussi bien en Europe que dans les grandes villes, Washington et New York. Et ce soutien qui se remanifeste, qui s'est même élargi, comme on l'a dit, vers plus de votes hispaniques, également afro-américains dans certains États, et qui valide en quelque sorte le programme de Trump de ces quatre dernières années, et qui valide aussi sa vision de la société américaine et sa vision des États-Unis dans le monde. Et donc c'est vrai qu'il faut que nous on intègre peut-être un peu plus sérieusement cette tendance beaucoup plus lourde en fait, qui est en train de refaçonner la société américaine, la manière dont elle se perçoit elle-même aujourd'hui, ses défis intérieurs et ses défis extérieurs, et se dire c'est une Amérique avec laquelle il va falloir dialoguer, peut-être se réhabituer à une autre type d'Amérique qui est traversée par de multiples crises, et Trump est véritablement le porte-parole finalement de cette Amérique-là.
Thomas Negaro, vous êtes en direct de Washington, historien spécialiste des États-Unis. Je vous salue, Thomas. Est-ce que l'un des deux a un tout petit avantage là à 13h06 heure de Paris, et alors qu'on se concentre sur trois États?
Question à 1 000 $, c'est ça?
Oui. Allez, je vous la fais à 10 000 même, si vous voulez.
Allez, 10 000, merci. Là, je prends. Alors, écoutez, on est tous en train de dire les sondeurs se trompent, finalement, Trump est plus puissant qu'il ne l'était, etc. Attendons les résultats finaux, parce que je peux vous dire que ça se resserre de partout, qu'il reste 30 millions de voix à décompter, et que c'est en train, par exemple, quand je me suis couché pour ma sieste tout à l'heure, le Wisconsin était clairement pour Donald Trump. Je me réveille, Biden est passé devant. Oui. La Géorgie pourrait très bien basculer pour Biden, parce que vu ce qu'il reste à dépouiller, ce sont essentiellement des early votes, des votes anticipés qui sont des votes favorables à Joe Biden. Même chose, même le Michigan est en train de se rapprocher, etc., etc. Donc, à l'heure à laquelle je vous parle, là maintenant, exactement à 7h07 pour moi et 13h07 chez vous, oui, Biden n'est absolument pas battu. Absolument pas. Peut-être que même dans 4-5 jours, on verra que Biden l'emporte finalement pas si serrée que cela. Tout ça pour dire que vraiment, il faut attendre la fin du dépouillement. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, disait Jacques Chirac. Oui. Il avait raison, on est encore en plein milieu de la foire, et là, pour le coup, c'est vraiment le cas de le dire.
Ne pas passer d'un extrême à l'autre, une victoire annoncée de Biden à une défaite annoncée. Parole d'électeur, d'abord un électeur républicain, il s'appelle Christophe Mariotti. C'était cette nuit chez nos confrères de France Info. Christophe Mariotti, c'est un homme d'affaires, né aux États-Unis. Il venait de voter quand il est intervenu chez nos confrères.
J'ai voté Trump pour des raisons principalement économiques. On connaît tous son bagage d'homme d'affaires. Trump, c'est la stabilité. Trump, c'est la meilleure économie américaine depuis ces 50 dernières années. Mais il y a un aspect qui, pour moi, est fondamental, c'est sa politique étrangère. C'est le premier président américain depuis 50 ans à ne pas avoir commencé une nouvelle guerre au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie orientale. C'est énorme.
Vous avez confiance ou pas?
Alors oui,
vous y croyez?
J'y crois. Trump va certainement pouvoir décrocher le collège électoral à quelques états près. Et je crois qu'il va encore perdre le popular vote, le vote populaire universel.
Mais clairement, vous voyez dans quelques heures, vous, sabrer le champagne et dire Trump de retour pour 4 ans.
Les deux cas, comme avait dit Churchill, le champagne, dans la victoire, on la veut, et dans la perte, on en a besoin. Donc, quel que soit le cas, je sabrerai le champagne.
Bon, on verra ce qu'il en est dans les jours ou les semaines à venir. Parole d'électeur encore en Floride. C'était à clé pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit. 400 000 voix d'avance pour le candidat Trump, qui affirme donc qu'il a gagné l'élection, tout en parlant de fraude du camp d'en face et menaçant de saisir la Cour suprême. Parole d'électeur en Floride. C'est avec vous à Miami, Gaëlle Joly. D'abord les démocrates.
Cette victoire, elle leur laisse un goût amer aux démocrates de Miami qui croyaient à cette vague bleue sur la Floride. Joe Biden était donné gagnant dans les sondages. Une grosse déception donc pour les Haïtiens pro-Biden avec qui j'ai passé la fin de soirée dans un local. Mais au-delà de la déception, c'est surtout le dépit après avoir écouté attentivement l'intervention de Donald Trump tout à l'heure. Écoutez, Fritz, c'est un fervent supporter démocrate.
Non, c'est très grave parce que on a un homme qui ne respecte pas la loi, qui ne respecte pas les processus démocratiques.
En faisant ça, il peut faire en sorte que les choses tournent mal.
Ah oui, bon, nous sommes en face d'une situation qui peut avoir des retombées néfastes sur la nation.
Alors un peu plus tôt, les Républicains, eux, ont célébré la victoire de Donald Trump sur un parking d'une zone commerciale en plein air, en bordure de Miami. Des latinos pro-Trump qui étaient, dès le départ, plutôt sereins et qui se sont pris à rêver. Je suis heureuse, on y croyait, mais c'était tendu quand même. La Floride, c'est un État qui aime Trump. Il a fait de grandes choses pour les latino-américains et pour le monde entier. Je suis satisfaite car j'ai mouillé la chemise. Voilà, des républicains qui sont allés se coucher très tôt, sans connaître les résultats, mais avec l'espoir et peut-être même la certitude de se réveiller sous un second mandat de Donald Trump.
Alexandra de Hopcheffer, alors on entendait Thomas Negaroff nous dire c'est joué d'aucun des deux côtés et vraiment il faut avoir ça à l'esprit à 13h10 au moment où on parle. Tout de même, écart massif entre ce qu'avaient annoncé les instituts de sondage sur le vote populaire, le vote général et ce qui s'est passé. Où est-ce qu'ils se sont plantés, pour le dire vulgairement, et pourquoi?
Bah, pour le Parti démocrate, on a aujourd'hui un sentiment d'énorme déception. Oui. Il n'y a pas eu la vague bleue tant rêvée. Il y avait même un moment où on parlait de renverser Texas, la Floride, de le remettre dans le giron démocrate. Oui. Et là, pareil, quand on regarde, effectivement, Biden est en train peut-être de dépasser de quelques petits pourcentages en Wisconsin et peut-être dans d'autres États de cette région des Grands Lacs, mais c'est très, très minime. Donc, il n'a pas accompli, finalement, l'objectif principal qui était d'abord numéro un, de séduire les électeurs qui ont voté Trump en 2016 et qui sont déçus par Trump. Il n'a pas totalement réussi à reconquérir l'électorat dit blanc ou ouvrier. Et puis deuxièmement, on parlait de la Floride là dans votre dernier reportage, il a aussi assez tardivement tendu la main vers l'électorat hispanique. Mmh. Il a été tellement obsédé par le fait de conquérir les électeurs déçus blancs, notamment de Trump, qui est finalement... Il a dégainé un peu trop tard vis-à-vis de l'électorat hispanique, et ce qui explique d'ailleurs, et c'est les premières leçons qui sont en train d'être apprises maintenant au sein du Parti démocrate, qui a eu un peu se louper en Floride.
Thomas Negaroff, sur l'écart entre les annonces des instituts de sondage ou les prédictions vote national et ce qui s'est avéré, il y a eu un vote Trump honteux que les gens n'ont pas dit qu'ils allaient voter Trump. C'est une des clés de ce qui s'est passé ces dernières heures.
Il faudra analyser, mais c'est vrai que les sondeurs parlaient de ce vote dit timide. Alors ils s'en marraient eux-mêmes en disant non, ils sont pas très timides quand on les voit sur les tarmacs des aéroports quand ils attendent la venue du président dans son Air Force One. Mais c'est vrai qu'il y a un vote qui est difficile à comptabiliser, notamment très puissant dans les milieux ruraux. Ça a été peut-être une des clés. Alexandra de Hopcheffer racontait à tous les deux, c'était sur le plateau de C'est dans l'air, elle avait sûrement bien vu le coup que les hommes noirs, les jeunes hommes noirs allaient peut-être pas massivement, mais en tout cas de manière significative basculer dans le camp de Trump. Et effectivement, c'est peut-être aussi un électorat qui est pas facile à sonder parce que on n'ose pas trop le dire. C'est pas de la timidité, mais c'est parce que voilà, on vote pas absolument comme sa communauté. Donc il y a des tas effectivement de biais qui ont pu arriver. Mais encore une fois, attendons vraiment les résultats pour savoir dans quelle largeur les sondeurs se sont plantés. Ils s'étaient plantés en 2016. Tout le monde s'était dit, bon, ils ont compris. C'est pas possible qu'ils refassent deux fois la même erreur. Les biais, ils les ont pris en compte, etc. Ils avaient sous-évalué Trump. Ils vont même peut-être surévaluer Trump. Bah, on voit qu'à nouveau, il y a une dynamique de campagne qui est celle-ci. Mais ce qui est vraiment passionnant, je trouve, et si on prend un peu de hauteur par rapport à tout ça, c'est quand on dit, ça fait des semaines qu'on dit, il y a deux Amériques face à face, dos à dos, côte à côte. Mais pour le coup, ils votent même plus en même temps. Puisqu'on voit très clairement que l'Amérique de Biden, elle a voté avant. Et l'Amérique de Trump, elle a voté aujourd'hui, enfin hier. Donc c'est quand même fascinant de voir devant nous deux pays fonctionner de manière parallèle, ne jamais se rencontrer, et on en voit le résultat en ce moment, parce qu'on a dépouillé évidemment d'abord les votes du 3, et puis on voit comme on commence à voir d'autres votes apparaître, et le schisme que ça crée, la crise que ça crée, le flou que ça entraîne, eh bien c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On voit la conséquence et le témoignage politique et démocratique de ces deux Amériques.
A nation divided, titre le Washington Post ce matin. Au bout de la nuit en France, les deux candidats sont exprimés pour prédire leur victoire. D'abord Joe Biden, depuis son quartier général de Wilmington, Delaware.
Nous sommes satisfaits du progrès que nous avons réalisé. Ce soir, nous sommes en bonne voie de remporter l'élection. Étant donné le vote par correspondance sans précédent, nous savions que ça allait prendre du temps pour réaliser le dépouillement et qu'il fallait être patient. Il faut attendre que le dépouillement soit terminé. C'est un dur travail et il faudra attendre que tout soit décompté. Que toutes les voix soient décomptées. Cela dit, nous sommes confiants.
Et à Wilmington, QG et fief politique de Joe Biden dans le Delaware, on retrouve Sébastien Pao. Bonjour Sébastien.
Bonjour Bruno.
L'un de nos envoyés spéciaux, vous suivez le candidat Biden pour France Inter. Comment s'est passée sa soirée ?
Écoutez, une soirée à l'image des meetings de Joe Biden ces derniers jours, c'est-à-dire à distance, en voiture, en klaxonnant, on l'entendait sur l'intervention de Joe Biden à l'instant, pour dire à la fois ses espoirs ou ses colères, espoir de voir bien certains des derniers États clés, non encore complètement dépouillés, et bien tomber peut-être dans la colonne des bleus des États démocrates, et puis colère d'entendre le président américain revendiquer quasiment la victoire à demi-mot et menacer de saisir la Cour suprême et d'empêcher le décompte des bulletins de vote. On l'entendra dans un instant. Joe Biden est apparu à peine 10 minutes hier soir au Chase Center de Wilmington, on vient de l'écouter, le centre des congrès. Il est monté sur scène face aux quelques 200 autos de ses partisans pour dire à la fois sa confiance et la nécessaire patience avant de connaître le nom du vainqueur. Ce n'est pas à moi, ni à Donald Trump, a-t-il dit, de dire qui a gagné cette élection. C'est une décision du peuple américain, mais nous sommes sur la bonne voie, on l'a entendu, je suis confiant. Il est ensuite reparti chez lui, dans la maison familiale ici à Wilmington, et c'est sa directrice de campagne qui a publié le communiqué au milieu de la nuit à propos de la conférence de presse de Trump, quelques instants plus tôt depuis la Maison Blanche. Déclaration scandaleuse, sans précédent, fausse, écrit Jen O'Malley Dillon. Jamais jusqu'ici dans notre histoire, dit encore l'équipe Biden, jamais un président des États-Unis n'avait cherché à priver les Américains de leur voix lors d'une élection nationale. Les équipes juridiques du candidat démocrate sont prête à résister, assure-t-elle, et à l'emporter.
Alors, on y est à ce moment de bascule. Merci Sébastien Paour avec les moyens techniques d'Arthur Gerbault. On y est à ce moment de bascule un peu avant 8h30 heure française. Donald Trump s'exprime depuis la Maison Blanche. Le dépouillement n'est pas encore achevé. Au combien ? Eh bien, il accuse déjà, on ne sait pas qui précisément, de triche.
C'est une fraude envers le peuple américain. Ça met notre pays dans l'embarras. Nous nous apprêtions à remporter cette élection. Et en toute franchise, nous l'avons remportée. C'est une fraude massive qui est en train d'exercer. Nous voulons que la loi soit exercée de manière appropriée. Par conséquent, nous allons saisir la Cour suprême. Et nous voulons que le vote s'arrête. On ne veut pas qu'il trouve des bulletins à 4 heures du matin et qu'il les rajoute à la liste. Nous allons gagner l'élection. Et pour ce qui est des chiffres, eh bien, ils sont de notre côté d'ores et déjà.
Alors, les lumières de nos spécialistes sur cette déclaration fondamentale. D'abord, on retrouve Grégory Phillips, correspondant de France Inter à Washington. Grégory, pour aller un cran plus loin, comment va se passer le dépouillement dans les États là qui sont encore en balance ?
Alors, dans ce que vient de dire Trump, il y a quelque chose qui est faux. C'est qu'il s'agit pas de bulletins qu'on découvrirait cette nuit, demain ou la nuit prochaine. Il s'agit bien de bulletins qui ont été envoyés par la poste avant la date de l'élection. Et comme on dit en France, le timbre fait foi.
Le cachet de la poste.
Le cachet de la poste fait foi. Je cherchais l'expression. Ouais. Donc on va dépouiller ces bulletins là, ces bulletins qui ont été envoyés. Dans le Nevada, les opérations sont suspendues. Elles vont reprendre demain matin. En Pennsylvanie, à Philadelphie, ça va reprendre tout à l'heure. Là, il est 7h du matin, ça va reprendre dans la matinée. On l'a dit, il y a des centaines de milliers de bulletins à prendre en compte. Et puis, c'est très important parce que on est quand même sur des marges extrêmement faibles. Par exemple, dans le Nevada, l'avance de Joe Biden, c'est 8000 voix seulement. Dans le Wisconsin, l'avance de Joe Biden, c'est 11000 voix seulement. Donc, vous voyez que ces bulletins qu'on va découvrir avec un peu de retard peuvent évidemment changer beaucoup de choses.
Et un mot tout de suite du Congrès, Grégory Phillips, parce que ça a un lien avec ce qu'on est en train de dire. Qu'est-ce qu'on peut dire des résultats au Sénat et à la Chambre des représentants à ce stade ?
Alors ça, c'est vraiment très important et très intéressant. Les démocrates espéraient pouvoir décrocher la majorité au Sénat. ils ne vont pas réussir à le faire. Ils ont arraché 2 sièges aux républicains dans le Colorado et dans l'Arizona, mais c'est tout. Donc, a priori, ça ne permet pas de gagner la majorité. Et puis, au Sénat, on note quelque chose aussi. C'est 2 soutiens de Trump, le chef de la majorité, Mitch McConnell, dans le Kentucky, et le sénateur de la Caroline du Sud, Lindsey Graham, qui sont 2 très proches du président et dont on disait qu'ils étaient en danger. Eh bien non, ils sont réélus. Enfin, à la Chambre des représentants, en revanche, il semble que les démocrates conservent la majorité et même gagnent quelques sièges de plus.
Les chiffres du New York Times à ce stade. Sénat, 47 démocrates, 47 républicains. Chambre des représentants, 190 démocrates, 181 républicains. Alexandra de Hopchesser, il peut empêcher le décompte des voix, Donald Trump, comme il l'a dit ce matin?
Non, il ne peut pas l'empêcher, tout comme sa déclaration de victoire ce matin ou au cours de la nuit n'a aucune valeur juridique. Ça, c'est une évidence. Après son recours à la Cour suprême, on peut prendre l'exemple du Texas, hein, où la Cour suprême du Texas a refusé aux républicains de remettre en question, je crois, à peu près 127 000 bulletins de vote, oui, parce qu'ils avaient été mis dans une boîte aux lettres ou alors électroniquement dans un drive-in. En fait, les voitures passaient et les républicains ont estimé que c'était pas quelque chose qu'il fallait valider. La Cour suprême du Texas a refusé et a dit on va valider ces votes dits par correspondance. Donc après, s'il veut saisir la Cour suprême peut très bien dire désolé, mais on ne va pas dans le sens de votre jugement.
Et à quel délai?
Alors,
s'il saisit la Cour suprême, c'est quoi? C'est
ce qu'il faut en fait se mettre dans tête, c'est que le système électoral américain est vraiment décentralisé, et c'est pour ça qu'on a souvent du mal à comprendre pourquoi il y a des résultats qui apparaissent à certaines dates, etc. Pour vous donner un exemple très concret, la Caroline du Nord est un des États qui autorise à comptabiliser les bulletins de vote par correspondance jusqu'à la date du 12 novembre, hein, vous imaginez?
12 novembre. D'accord.
Donc par exemple, donc voilà, ça vous donne en fait une idée du calendrier auquel on va assister, et petit à petit en fait, hein, les morceaux du puzzle et les couleurs bleues et rouges vont se mettre en place. La date qu'il faut absolument garder en tête, hein, c'est en fait celle du 8 décembre, hein, qui est la date à laquelle tous les litiges, les contentieux, les contestations doivent être réglés pour pouvoir passer ensuite à la phase d'après.
Et il y a une autre date clé, Thomas Negaroff, me semble-t-il, c'est 14 décembre, réunion théorique du collège électoral. Est-ce que l'objectif de Trump, c'est de gripper la machine jusqu'à ce que le 14 décembre arrive?
Oui, alors c'est un pari qui est quand même un pari un peu fou. Je crois que son objectif, c'est surtout, comme d'habitude, un discours performatif. Je veux obtenir quelque chose, donc je dis que c'est une réalité, en espérant qu'elle devienne effectivement une réalité. Ça marche très souvent avec lui, mais là, on est quand même face à un mur du réel qui est assez puissant, puisque c'est le scrutin, c'est la base même de la vie démocratique. Et quand j'entends Donald Trump, dans son discours de la nuit, dire ces mots en disant « on arrête de compter, c'est fini », ça ressemble diablement à des dictateurs dans des pays qu'il avait souvent critiqués, et qui, dans un système démocratique, ont déqualifié leurs adversaires complètement, en qualifiant de fraude quand ils étaient vaincus, et en sifflant la fin de la partie avant même que le scrutin soit achevé. Je ne suis pas en train de dire que Trump est un dictateur, je suis juste en train de dire qu'il a un rapport à la démocratie qui interroge quand même de plus en plus, y compris dans son propre camp. J'entendais Chris Christie, qui est quand même un élu très important du parti, qui était choqué, l'ancien gouverneur du New Jersey était choqué par les propos de Donald Trump de la nuit. On est vraiment là à la marge, à la limite de ce qui est entendable pour un chef d'État d'un pays démocratique.
Et Chris Wallace, le journaliste très respecté de Fox News, hein, on n'est pas chez les gauchistes, qui parlait après le discours de Trump d'une situation très inflammable et oui, que le président avait jeté une allumette dans le baril. Allons dans un des états clés où va se jouer la présidentielle américaine, la Pennsylvanie. Maxime Tellier, vous êtes à Hazleton, nord-est de la Pennsylvanie. C'est une région clé dans cet état clé, Maxime.
Oui, moi j'ai passé la soirée avec des républicains, une soirée où l'ambiance a suivi un peu une trajectoire inverse, hein, à celle des démocrates qui croyaient quand même pour certains à une vague bleue. De vague bleue, il n'y a pas eu, hein, malgré ce que disaient les sondages. Et là où j'étais, ça s'est vu, hein, sur les visages des républicains, dans ce bar de la petite ville d'Hazleton, des sourires, des applaudissements, à mesure que Trump faisait finalement aussi bien, hein, qu'il y a 4 ans ou presque. Et ce résultat, cette performance, ça n'étonne pas dans les personnes avec qui j'étais, notamment Michael, qui était présent.
Il y a quelque chose qu'on appelle la majorité silencieuse dans ce pays. Richard Nixon avait utilisé cette expression, des gens comme moi qui vont au travail tous les jours, qui restent discrets, qui croient dans la loi et l'ordre. Ils ne prennent pas la parole mais s'expriment pendant les élections. C'est ce qui arrive ce soir. Certaines personnes sont peut-être surprises, mais ça n'est pas ma faute si on ne nous entend pas. Nous sommes toujours là.
Voilà, et finalement, l'Amérique de Trump est restée fidèle à Trump. Alors, côté résultat, en Pennsylvanie, 3/4 des bulletins ont été comptés. Et c'est le décompte des bulletins anticipés qui prend du temps. Il y en a eu 2,5 millions cette année, 8 fois plus qu'il y a 4 ans. Et là, il en reste un peu plus d'1 million à compter. C'est un mode de scrutin privilégié par les démocrates. Alors, pour l'instant, si vous regardez la carte de Pennsylvanie, elle est rouge, hein, mais elle pourrait redevenir bleue. Si on fait un résumé un peu coloré de cette soirée en Pennsylvanie, il n'y a pas eu de vague bleue, comme dans le reste du pays. Mais il y a peut-être un mirage rouge, donc une fausse victoire républicaine avant le retour des bleus. Ça ressemblerait presque à un scénario de film américain, sauf qu'on en connaîtra la fin que ce soir, voire même sans doute demain, ça va prendre du temps, c'est ce que dit le gouverneur de Pennsylvanie.
Merci Maxime, en direct de cette région clé, dans un état clé, la Pennsylvanie dépouillée à 75% les bulletins à ce stade. On va redétailler, analyser les résultats avec nos deux invités dans quelques minutes. Je vous invite à poser toutes vos questions au 01 45 24 7000. Un éclairage français avant de clore et pour clore cette page américaine très provisoirement. Ce qu'on peut constater, c'est qu'après 4 ans de présidence Trump, la certitude, c'est que le trumpisme, cette politique qui mise sur le peuple contre les élites, qui consiste à défendre l'Amérique d'abord, à brandir la loi et l'ordre face aux manifestants de Black Lives Matter, eh bien cette politique, elle est vivante. Et voilà de quoi nourrir la réflexion au Rassemblement National en France. Rassemblement National dont 3 élus ont passé la soirée avec le candidat Trump à Washington, Élodie Forêt.
De cette expérience, le sénateur Stéphane Ravier retiendra la faillite des sondeurs, incapables de tirer les leçons de l'élection précédente. L'élu RN qui, après cette soirée folle, se couche surtout rempli d'espoir pour 2022.
Tout ça démontre que lorsqu'on veut renverser la table du système et que l'on répond aux aspirations du peuple, que l'on s'intéresse d'abord à lui, eh bien on finit par en être récompensé. Et sa ligne de rejeter le mondialisme, le globalisme, l'immigration sauvage, tout ça, c'est un exemple et cela doit nous inspirer.
S'en inspirer sans faire du copier-coller, Trump a sa façon de s'exprimer, ça lui appartient. Marine, elle, correspond à la réalité française, poursuit Stéphane Ravier. Même analyse de l'eurodéputé et conseiller de Marine Le Pen, Philippe Olivier. Nous ne sommes pas trumpistes, mais en France, nous sommes l'offre politique qui correspond le plus à cette révolution mondiale. Révolution qui renvoie, selon Philippe Olivier, les partisans de la mondialisation aux oubliettes. Comme aux États-Unis, les Français veulent un modèle qui les protège. Souveraineté, sécurité, le même message donc qu'un Trump ou un Boris Johnson, mais avec un style plus tempéré pour rendre l'alternative crédible aux yeux des Français.
Les États-Unis, on y revient dans quelques minutes. 01 45 24 7000. L'autre grand titre de l'actualité, c'est en France où la période aussi est pesante et décisive. Plus de 36 000 contaminations au Covid hier, un taux de positivité des tests de 20%, 3 900 patients en réanimation pour 6 400 lits disponibles. Nouveau conseil de défense ce matin, un couvre-feu va-t-il être imposé à Paris et en Ile-de-France en plus du confinement pour éviter notamment les regroupements près des magasins qui vendent de la nourriture à emporter? C'est sur la table. Quoiqu'au gouvernement, hier, la mesure a été annoncée par le porte-parole avant qu'il soit démenti. Et puis deuxième couac, peut-être encore plus important, dans la soirée à l'Assemblée. Bonjour Yael Goz.
Bonjour Bruno.
Chef du service politique de France Inter, on votait la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Il n'y avait pas assez de députés en marche pour soutenir le gouvernement.
Oui, le coup du rideau devenu le coup du resto. Je m'explique. À 21h, au moment du vote, les députés LR de droite sont 5 fois plus nombreux que les députés de la majorité. 2 raisons à cela. La cantine de l'Assemblée, Covid oblige, n'accueille plus autant de convives. Il faut dîner par roulement. Et juste avant la séance, les Républicains occupent toutes les tables, ou presque. Alors à l'heure de la sonnerie, les marcheurs sont en sous-nombre. Problèmes politiques, aussi et surtout. Malaise vis-à-vis des petits commerçants, des marcheurs qui traînent des pieds. Dur d'assumer ce reconfinement. Résultat, un gouvernement mis en minorité. Vers 23h, le ministre de la Santé arrive en urgence. La colère d'Olivier Véran qui revient d'une visite dans un hôpital.
Dans la première chambre, il y avait un jeune homme de 28 ans, en coma. Dans la deuxième chambre, il y avait un homme en surpoids, âgé de 35 ans. C'est ça la réalité. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là la réalité de nos hôpitaux.
très rare intervention d'Olivier Véran sur ce ton-là. Ces petits jeux parlementaires où l'on profite des absents, c'est un grand classique. Mais en pleine crise, ça donne une mauvaise image, regrette le député de la majorité, l'AREM Bruno Ketel.
Maintenant, nous, les marcheurs, il faut, oui, pour 2022, qu'on soit plus structuré collectivement et qu'on s'inscrive dans une logique aussi de combat. Il faut parfois peut-être qu'on arrête d'être gentil et puis il faut qu'on fasse aussi de la politique sans s'interdire d'en user de toutes les armes. Je veux parler de la politique.
Faire primer le sanitaire sur tout le reste, c'est dur, mais à la fin, on nous dira merci, veut croire son collègue député de Paris, Sylvain Maillard.
Si nous ne sommes pas derrière nos soignants, dans 15 jours, les discussions que nous avons eues hier à l'Assemblée, elles sembleront bien dérisoires et ceux qui ont porté les amendements pour finalement la fin du confinement se retrouveront mis à l'index de l'ensemble de la population française parce qu'ils auront été imprévoyants.
Une fin d'état d'urgence qui ira bien à son terme en février car un nouveau vote aura lieu en fin de journée pour effacer ce énième couac de la semaine. Troisième et dernier, prévient l'Élysée, il faut que vous soyez tous alignés, la majorité aussi pour ne plus que cela se reproduise. Ça c'est Emmanuel Macron qui a tapé du poing sur la table à midi en Conseil des ministres.
Je vous donnais les chiffres de la situation sanitaire, le transfert de patients de régions en surcharge, comme les Hauts-de-France vers d'autres, a commencé. L'hôpital d'Angers, dans le Maine-et-Loire, s'apprête à recevoir des patients. Véronique Julien, Angers, épargné par la première vague, la deuxième est préoccupante, mais encore maîtrisée à ce stade. On s'organise à l'hôpital, Véronique.
Moins de 10 patients Covid en réanimation le 20 octobre dernier, près de 40 aujourd'hui. Le nombre d'hospitalisations qui augmente dans les mêmes proportions. Au CHU d'Angers, on constate bel et bien que l'épidémie est galopante. Pas de déprogrammation encore, mais ça ne va pas tarder car on sait que les 10 prochains jours vont être pires. En quelques semaines, l'hôpital aura doublé sa capacité de réanimation. Le professeur Alain Mercat dirige le service de réanimation médicale.
Avant la crise Covid, il y avait 51 lits de réanimation au CHU d'Angers. On est aujourd'hui à 74 lits. On sera à 99 lits dans quelques jours. C'est un effort considérable. Pour ouvrir 5 lits de réanimation, il faut 12 infirmières.
Relativement épargné durant la première vague et touché un peu plus tard que certaines régions par l'épidémie automnale, l'hôpital a eu le temps de se préparer cet été à cette montée en charge. Malgré plus de 10% d'absentéisme chez les personnels, nous n'avons pas de problème d'effectif, confie la directrice du CHU, Cécile Jaglin.
Nous avons maintenu un programme de formation important pour les personnels qui ont une compétence en réanimation et qui n'y exercent plus. Par ailleurs, nous avons proposé à tous les contractuels qui étaient là cet été d'avoir une prolongation sur l'automne et le début de l'hiver, ce qui nous permet aujourd'hui de faire face dans des conditions pas trop dégradées.
Autre atout, une collaboration qui se passe bien avec les cliniques privées alentour, chargées mais pas dépassées. Le CHU d'Angers a pu d'ailleurs prendre en charge plusieurs patients transférés de la région Rhône-Alpes. 4 d'entre eux sont attendus aujourd'hui même.
Dans l'actualité, encore un homme interpellé ce matin après qu'une enseignante l'a entendu menacé de venger le prophète et de s'en prendre à des professeurs près d'une école primaire. C'était à Athis-Mons, dans l'Essonne, en banlieue parisienne.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Sébastien Léa, c'est nuageux au sud, ensoleillé au nord.
Oui Bruno, la perturbation qui a balayé le pays hier s'attarde encore aujourd'hui sur le sud du pays. Les nuages viennent d'ailleurs se bloquer le long des Pyrénées. L'après-midi restera globalement gris et humide avec un peu de neige en hauteur. Entre la Franche-Comté, les Alpes, l'est de l'Auvergne, le Var et le pays niçois, quelques timides éclaircies vont quand même réussir à filtrer cet après-midi. Ciel nuageux également du côté de la Corse. Sur le reste de la moitié sud, mais aussi en Alsace, c'est un épais voile nuageux qui contrarie le soleil. Entre les Landes, le Limousin et le Puy-de-Dôme, l'après-midi sera tout de même bien lumineux. Et puis sur le reste du pays, des Charentes à la Bourgogne, à la Lorraine, jusqu'aux Hauts-de-France, à la Normandie et à la Bretagne, le soleil sera radieux cet après-midi. Côté température, après les premières gelées de ce matin, l'ambiance reste fraîche pour la saison cet après-midi. Prévoyez 8 à 14 degrés en général et 14 à 21 degrés sur les régions de la Méditerranée.
Merci Sébastien Léas, Météo France.
Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Christiane Balladier, à Drancy, nous dit pourquoi.
J'ai beaucoup de soucis pour me déplacer. Tout ce qui est livraison à domicile, au départ, on n'en veut pas. Et à un moment donné, on accepte cette livraison. Mon opticien fait la même chose que si je vais en boutique et que je vais chercher mes lunettes. L'avantage, c'est qu'au lieu de passer chez lui, mon opticien passe chez moi. C'est vraiment très pratique et surtout très rassurant.
Alain Lachaud, l'opticien Optique 2000 de Madame Balladier, à Drancy.
Notre satisfaction, c'est redonner la vue à nos patients, le confort de leur lunettes, le prix adéquat et en plus pour les clients qui ne peuvent pas se déplacer, nous proposons proposons le service à domicile. Et comme Optique 2000 est partenaire avec de nombreuses mutuelles, nous gérons tout pour nos clients.
Alors, Madame Balladier, contente d'Optique 2000 ?
Très. Et en plus, ils s'occupent de tout.
Optique 2000, c'est le leader français de l'optique, avec 1200 magasins près de chez vous.
Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien.
Déjà 13h34.
France Inter. Le 13-14. Bruno Duvic.
Toujours avec nos deux spécialistes des États-Unis, la politologue Alexandra de Hoppe-Scheffer et l'historien Thomas Negaroff et Grégory Phillips, notre correspondant à Washington. Grégory, à mi-chemin de ce 13-14, rappelons ce qu'on sait des résultats de cette présidentielle américaine, les dernières informations.
Écoutez, j'ai les yeux rivés sur cette carte avec ses états en rouge et bleu et mes états grisés et en particulier sur le Wisconsin, oui. Dont je vous parlais tout à l'heure avec 10 votes à prendre dans le collège électoral. Tout à l'heure, on était à environ 11 000 voix d'écart avec une légère avance pour Joe Biden sur Donald Trump. On est maintenant à 20 000 voix d'écart. Donc, on voit que le candidat démocrate progresse. Pourquoi ? Parce que dans le Wisconsin, on continue à dépouiller les bulletins arrivés par correspondance et notamment les bulletins dans les villes, et c'est vrai que c'est surtout dans les agglomérations que le démocrate était favori, donc c'est vraiment à surveiller, mais Biden prend un peu le large dans le Wisconsin et est en route peut-être vers une victoire dans cet état du nord des États-Unis, puis les autres états à surveiller: Michigan, Pennsylvanie, on l'a dit, Géorgie et Nevada dans une moindre mesure, où là Biden est également aussi en tête. Il y a 6 voix de grands électeurs à prendre au Nevada.
Merci Grégory Philippe. C'est les questions des auditeurs de France Inter au 01 45 24 7000. Bonjour Guy.
Oui, bonjour France Inter.
Vous nous appelez de Lyon, je vous écoute.
De Lyon, exact. Je voulais demander, parce que les élections ne sont pas encore connues, mais si M. Biden passe à la présidence, quelles seront ses marges de manœuvre vis-à-vis d'un Sénat hostile, par contre une Chambre des représentants favorable? Qu'est-ce qu'il pourra faire passer de son programme, notamment sur le sanitaire, la santé, sur les gaz de schiste, etc., etc., qu'il n'a pas, à mon avis, assez mis en valeur dans toute la campagne? On a surtout, de son côté, parlé de l'anti-Trump. Mais ça n'a qu'un moment.
Alors, on va soumettre ça. Alexandra de Hoppe-Scheffer, oui. Sachant qu'encore une fois, que ce soit au Sénat ou la Chambre des représentants, là aussi, on est dans le bleu, si j'ose dire, on est dans le brouillard. Mais de fait, un président qui n'aurait pas le Congrès derrière lui ne pourrait pas faire énormément de choses.
Il sera un président extrêmement contraint, beaucoup plus que notre propre président, d'ailleurs. Mmh. Donc, et on l'a d'ailleurs vu sur les questions que notre auditeur vient de mentionner, que ce soit les questions sanitaires, que ce soit aussi les questions de politique étrangère, de pouvoir réintégrer, par exemple, un accord multilatéral ou autre, pourrait peut-être être bloqué au niveau du Sénat si la majorité républicaine ne souhaite pas une réintégration, par exemple, de l'accord climat ou autre. Et donc, à ce moment-là, ce à quoi on a assisté au cours de ces dernières administrations américaines successives, c'est qu'on aura un président qui, encore une fois, gouvernera via des ordres exécutifs, c'est-à-dire des décrets présidentiels qui pourront, dans 4 ans, être très facilement démantelables par son successeur.
Thomas Negaroff, la question de notre auditeur amène aussi à s'interroger sur la campagne de Biden. Est-ce qu'il a choisi les bons thèmes? Quand on regarde là les sondages sur en fonction de quel sujet vous êtes-vous prononcé, on voit que les républicains parlent d'économie avant tout. Le Covid vient loin derrière. Et lui a axé sur le Covid. Est-ce qu'il a pas raté sa campagne, pour le dire en un mot?
Alors c'est un peu dur de dire ça. En fait, en réalité, il avait pas de thème de campagne. Il avait une substance de campagne qui était celle de la décence, celle de l'empathie, qui n'était pas une vision d'avenir, ce qui est d'ailleurs assez étonnant pour un démocrate. Habituellement, dans la foulée d'un Kennedy, c'était l'avenir radieux. Là, c'était pas du tout le cas. Et évidemment, en creux, il y avait l'anti-Trump. Et l'anti-Trumpisme a-t-il suffi? En tout cas, c'était la voie choisie clairement. Dès le début, vous savez que lors de son premier discours, quand il se lance en avril 2019 dans la campagne présidentielle, les mots qu'il emploie sont des mots qui sont d'abord: il faut absolument mettre un terme à l'expérience de Trump qui est en train de détruire l'âme de notre nation. Oui. Donc d'emblée, c'était posé. Les choses étaient posées. Après, effectivement, on va s'interroger, savoir est-ce que c'était un peu court, est-ce que ça suffisait pas, est-ce qu'il ne fallait pas, pardon, avoir des thèmes beaucoup plus forts, beaucoup plus mobilisateurs, parce que c'est vrai que à peu près entre les 2/3 et les 3/4 des électeurs de Biden votaient d'abord contre Trump plutôt que pour Biden, ce qui n'était pas du tout le cas d'ailleurs du côté de Donald Trump, où il y avait un enthousiasme très fort, un vote vraiment d'adhésion. Donc bien sûr, c'est des votes de nature très différente. On était sur un véritable référendum anti ou pro-Trump. D'ailleurs, on le voit bien quand on regarde le Sénat, parce que les républicains résistent très bien, et même, je pense, même davantage que Trump. Donc il y avait un tropisme trumpiste ou un tropisme anti-trumpiste très fort dans cette élection. Attendons de savoir dans quelques jours, dans quelques heures, si ça a été une stratégie victorieuse ou pas. Vous savez, c'est vraiment, quand on sait, c'est à la toute fin, hein. S'il gagne, on dira c'est formidable, c'était génial de jouer la décence, l'homme qui cicatrise, qui embrasse, qui tient dans les bras, etc. Et puis s'il perd, on se dit, ah, mais quelle catastrophe de ne pas avoir choisi des thèmes de campagne forts, clivants, et de ne pas avoir choisi, chercher l'adhésion, et quelle erreur que le Parti démocrate de lui avoir donné l'investiture. Donc c'est toujours pareil, hein. C'est un peu un jeu.
C'est à la fin qu'on joue la campagne.
Ouais. Souvent un jeu très déterministe.
Allez, Gérard, au standard de France Inter. Bonjour, Gérard.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour, madame. Bonjour, messieurs. J'ai une question. Pourquoi Trump craint-il qu'il puisse y avoir des trafics de vote, et pourquoi Biden ne pourrait pas le craindre aussi? Et le système électoral américain est si fragile que ça permet de faire beaucoup de fraude. Et là, je m'interroge pour une démocratie comme...
Alexandra Dobscheffer, question pertinente. Un, est-ce que l'argument de la fraude est recevable? Et effectivement, vous nous expliquiez ces règles tellement différentes en fonction des États, ça donne prise à minima à des questionnements.
Bien sûr, ça ne rassure personne. On le voit d'ailleurs que cette élection a été particulièrement tendue à cause justement de cette peur de la fraude. Alors, il y aura bien sûr des cas de fraude. Il y en a eu, c'est pas la première fois que l'Amérique vote par correspondance. Il faut savoir que c'est vraiment une tradition. C'est même la norme aux États-Unis, c'est de voter par correspondance. Là, ce qui fait la différence, c'est la masse. C'est le nombre de personnes qui, en raison du contexte sanitaire du Covid, ont voté par correspondance. C'est ça qui fait la différence. Et donc, pour moi, véritablement, je dirais, le risque ou les incertitudes sont vraiment liées au temps que ça va prendre pour dépouiller, au temps d'acheminement des bulletins de vote jusqu'au centre de dépouillement. Ça va être lié aussi, tout simplement, au fait que, bah, là aussi, il y a des règles différentes. La personne n'aura pas mis la bonne enveloppe dans l'enveloppe confidentielle, etc. Il y a, par exemple, l'État de l'Oregon est un des États pionniers du vote par correspondance. Il y a des centaines de millions de votes qui ont été faits par correspondance au cours de ces dernières années. Il y a juste une douzaine de cas de fraude qui ont été relevés dans ce cadre-là. Donc ça reste très minime.
Et pourquoi les républicains, pourquoi Trump dit-il craindre les fraudes et pas Biden? C'est une stratégie de sa part? Pourquoi on craint du côté républicain et pas démocrate?
Bien sûr, il a clairement tweeté. Il a dit plus on va élargir finalement le droit de vote par correspondance, et moins vous aurez la possibilité d'avoir un président républicain à la Maison-Blanche. Et
parce que ce sont les électeurs démocrates qui votent par correspondance.
Alors justement, ce sera intéressant de voir maintenant qu'on va dépouiller les votes par correspondance, est-ce que ce sont vraiment les démocrates? Alors c'est ce qu'on dit, les minorités, les femmes, les personnes qui vivent dans les zones urbaines et qui votent beaucoup plus en faveur des démocrates. Et là, on commence à le voir effectivement de manière très concrète dans l'État de Wisconsin.
Allez, avant de boucler cette émission, en retournant à Washington, retrouver Mathilde Deumy, une dernière question au standard, celle de Jérôme.
Oui.
Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour. Une question toute simple que je me pose depuis ce matin, c'est j'aurais aimé savoir qui serait président dans le cas où chacun des deux candidats obtenait le même nombre de voix des grands électeurs.
Ce qui est effectivement une option possible. Thomas Negarov, 269, 269. Que se passe-t-il à ce moment-là? Et si en 20 secondes, vous pouviez rappeler ce système de grands électeurs, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui ne le comprennent pas bien.
Alors, c'est un système indirect, en fait. Chacun vote dans son État, et surtout, ce qui est très important par rapport à chez nous, dans chaque État, c'est purement majoritaire. Celui qui gagne l'État gagne la totalité des grands électeurs qui sont à peu près proportionnels à la population de l'État. Et on en voit comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'il faut 270 grands électeurs pour remporter la présidentielle. C'est comme ça depuis très longtemps, 538 grands électeurs au total. Et si on arrive à 269, ce qui est tout à fait possible, ce qui n'est jamais arrivé mais qui est possible, là ça se passe à la Chambre des représentants pour le président des États-Unis, au Sénat pour le vice-président, ce qui peut avoir du coup une cohabitation, hein, très très étonnant. Et comment ça se passe à la Chambre des représentants? C'est pas aujourd'hui on prend les 435 élus, on se dit bah ils sont majoritairement démocrates, donc c'est un démocrate qui va être élu. Non, pas du tout. C'est qu'on prend État par État le congrès de chaque État. et dans chaque État, le Congrès vote pour le candidat qu'il désire, et à la fin, on fait les comptes, et donc il faut regarder non pas aujourd'hui l'État de la Chambre des représentants, mais l'État de la Chambre dans chacun des États, dans chacun des 50 États. Voilà, je ne sais pas si j'ai été plus clair,
si.
En tout cas, j'ai essayé d'être complet.
Vous ne nous avez pas rassuré, mais vous avez été plus clair, ça c'est certain. Allez, je voulais qu'on passe une dernière fois par Washington dans ce 13-14. Bonjour Mathilde Dehimi.
Bonjour Bruno.
Vous avez passé la nuit auprès des républicains, des pro-Trump à Washington.
Oui, Washington fief démocrate, hein, Bruno. On aurait pu s'attendre tout de même hier à des regroupements de casquettes rouges, Make Our Planet Great Again, hein, vous savez, comme lors des meetings de Donald Trump. Mais l'on n'a tout simplement croisé personne cette nuit autour de la Maison Blanche. C'était complètement désert, si ce n'est des opposants traditionnels au président. Et surtout, le programme de la soirée de Donald Trump est resté très flou. Quelques centaines d'invités à la Maison Blanche, à peine on a su quel était le menu, pas plus. Et pendant des heures, Bruno, fait exceptionnel, un Donald Trump silencieux pendant des heures avant d'annoncer sur Twitter une big win, une grande victoire.
Pas de QG chez les Républicains, mais est-ce qu'ils se sont exprimés au moins ?
Ils se sont très peu exprimés dans les médias, montrant que ce matin, il y a un certain malaise chez certains, du moins. Même le vice-président Mike Pence avait un ton légèrement différent de Donald Trump dans son discours hier. Les votes continuent d'être comptabilisés. On va donc rester vigilant, dit Mike Pence, comme l'a dit le président. Et le droit de voter est le fondement de notre démocratie depuis la création de notre nation. Nous allons protéger l'intégrité du vote. Voilà, on a entendu au moins aussi une voix dissonante. C'est ce que disait Thomas Negarov tout à l'heure. Une voix dissonante sur les plateaux TV. Chris Christie, républicain, ex-gouverneur du New Jersey, plutôt proche de Trump. Je ne parle pas ce soir en tant qu'ancien gouverneur, mais comme ancien procureur. Je ne comprends tout simplement pas l'intérêt de dire ça ce soir. Tous les votes doivent être comptabilisés maintenant, et je suis en désaccord avec ce qu'a dit le président. Alors ce n'est pas la première fois, Bruno, que le Parti républicain se fait pousser par Donald Trump. D'autres voix pourraient se faire entendre alors que le soleil commence à se lever sur Washington.
Merci Mathilde Dehimi, envoyée spéciale de France Inter à Washington. Il nous reste 1 minute 30 secondes par invité. Thomas Negarov, Patrice nous dit, les fake news et contre-vérités étant largement utilisées par Trump pour influer sur les élections, n'y a-t-il pas des instances de contrôle indépendantes pour invalider ces mensonges ?
Twitter par exemple a indiqué que son message qu'on a évoqué beaucoup ensemble ce midi, annonçant sa victoire, était un message qui contrevenait aux règles du réseau social. Alors oui, il y a des capacités à le faire, mais après Donald Trump a d'autres réseaux, d'autres moyens de s'adresser à ses supporters, mais là, on n'est pas vraiment dans le même cas de figure, hein. C'est pas uniquement pour séduire des gens ou pour convaincre. Là, on est face à un mur du réel. Le mur du réel, c'est le suffrage et la règle de la démocratie américaine.
Alexandra de Hopcheffer, c'est l'affaire de quelques heures, quelques jours, quelques semaines, le fait de savoir si ce sera Biden ou Trump.
Je pense qu'on peut s'attendre à quelques jours, quelques heures ou quelques semaines. Il n'y a pas de réponse claire à ça. Il n'y a vraiment pas de réponse claire. Ça peut durer très longtemps. Je dirais que le seul point à retenir en termes de délai d'expiration du mandat de Trump, c'est la date du 20 janvier. Donc s'il continue à s'exciter, à vouloir faire des recours judiciaires ou autres qui sont de toute façon retorqués par la Cour suprême ou autre, il devra, s'il échoue à cette élection, il devra de toute façon quitter la Maison Blanche le 20 janvier prochain.
Un grand merci à tous les deux d'avoir participé à ce 13-14, et je mentionne le roman, car ce garçon a tous les talents, le roman de Thomas Negarov, Puzzi, sur l'histoire du pianiste d'Hitler, c'est chez Gallimard. Musique américaine tout de suite, le rappeur Anderson Park, Lockdown.
You should have been downtown. The people are rising. We thought it was a lockdown. They opened the fire. Them bullets was flying. Who said it was a lockdown? Goddamn lie. Oh my, time heals all, but you out of time now. Judge gotta watch us from the clock tower. Little tear gas cleared the whole place out. I'll be back with the hazmat for the next round. We was trying to protest and the fires broke out. Look out for the secret agents, they be planted in the crowd. Set a civil unrest, but you sleep so sound. Like you don't hear the screams, don't be catching beat down. Staying quiet when they killing niggas, but you speak loud. When we ride, got opinions coming from a place of privilege. Sicker than the COVID, how they did them on the ground. Speaking of the COVID, is it still going around? Oh, won't you tell me about the looting? What's that
that really all about? Cause they throw away black lives like paper towels plus unemployment rate. What, 40 million now? Killed a man in broad day. Might never see a trial. We just wanna break chains like slaves in the South. Started in the North End, but we in the downtown. Riot cops try to block, now we got a showdown. Down. You should have been downtown. The people are rising. We thought it was a lockdown. They opened the fire. The bullets were flying. Who said it was a lockdown? Goddamn lies.
Two in downtown, where I got popped with the rubber bullet tray.
Why they do it? Someone cut the channel off the news before I lose it. I ain't even tripping. If you with it, then we lootin'. Let me put this Louis in the back of Suzuki. Oh, he had to break it down so smoothly. They gon' say it's not about race, but we moving. Hope, power, cut the trade pound. Had to put in my name. Wish a nigga play now. Any given day, I'll be headed to the pulpit. Say a little prayer. Matter of fact, I need two of them. Ooh, only do it. Only do it. Ooh, this ain't 92, so we in the new rules. Niggas got hips, so we don't lose the projects.
Le rappeur Anderson .Paak qui raconte à sa manière celle d'un partisan du mouvement Black Lives Matter, l'Amérique sous Trump. Avant de reparler de l'Amérique avec Jean Lebrun dans une seconde, un petit bol d'air. Avec notre feuilleton, même si les bateaux vont de plus en plus vite, feuilleton avec Charlie Dalin, concurrent du Vendée Globe qui s'apprête à partir pour le Tour du Monde. Les concurrents qui vont donc affronter les océans de la planète pendant plus de deux mois de solitude au moins, d'humidité, d'inconfort dans un tout petit espace. Troisième épisode de ce feuilleton signé Jérôme Val avec Charlie Dalin, la vie à bord.
Nous allons monter sur le bateau de Charlie Dalin et faire une visite de ce qui sera sa maison pendant plus de deux mois. Nous sommes à quai. Hop. Petite ouverture. Bonjour Charlie Dalin.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous.
Bah, bienvenue. Bienvenue dans, dans la Pivia.
C'est petit. C'est combien de mètres carrés d'ailleurs?
Si on oublie la loi Carrez, l'espace de vie, il doit faire 2 par 3 à peu près.
6 mètres carrés.
Ouais, ouais. Juste à droite de l'entrée ou à tribord de l'entrée, on va dire, on a le cardance dans lequel je mets mon petit réchaud. Sur la gauche, là, j'ai mes bâches de matossage dans lesquelles je vais pouvoir mettre tout mon matériel. Hein. Il faut savoir que j'ai à peu près 150 kilos de nourriture. J'ai mes outils, du matériel de rechange aussi. Voilà, on n'est pas loin des 300 kilos de matériel qui est stocké en sac que je vais déplacer en permanence pour équilibrer le bateau, pour améliorer ses performances. C'est vrai que c'est un bateau de 18 mètres, on pourrait s'attendre à beaucoup d'espace de vie, mais on s'adapte autour de ça.
Alors il faut que vous ayez tout finalement à portée de main, le lit, la cuisine, la table à cartes, l'ordinateur.
Ouais, exactement. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de salle de bain, pas de douche, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de frigo, de micro-ondes. Voilà, la cuisine, c'est un petit réchaud de camping. Les toilettes, c'est un seau. La douche, ce sera des douches à l'eau de mer de temps en temps et un rinçage à l'eau que je fabrique à bord, hein, de l'eau du dessalinisateur.
C'est de l'eau de mer, en fait, que vous filtrez, quoi. C'est ça, ça a bon goût, vraiment.
Quand on ne l'a pas utilisé depuis quelques temps, il ne faut pas boire les premiers centilitres parce que voilà, ça a un peu goût d'œuf pourri, on va dire. Donc, c'est vraiment pas très agréable. Après, elle n'a pas de goût, quoi. Elle n'a pas de goût, mais c'est sûr que, en fait, emporter pour 70 jours d'eau, ça ferait énormément de poids. Du coup, là, ça nous permet de partir plus léger. Aussi, j'ai beaucoup de plats lyophilisés, donc desquels on a retiré l'eau. Donc, ça permet que la nourriture soit aussi un petit peu plus légère. Au final, je consomme très très peu d'eau, hein, par rapport à un terrien. Je vais produire peut-être entre 4 et 5 litres d'eau par jour, quoi. Donc, c'est vraiment des très faibles quantités, même par rapport à une chasse d'eau à terre.
Là, nous sommes dans un endroit où il y a peu d'espace totalement plat. Charlie Dalin, vous faites dodo où? Vous dormez où?
Alors, je fais dodo sur un matelas qui est un petit peu englobant. Je pose mon matelas vraiment à même le fond de coque et je m'allonge dessus. Et aussi, ça me permet aussi de voir mon écran d'ordinateur de ma position allongée, donc de pouvoir toujours avoir un œil sur ma trajectoire, sur les conditions météo. C'est un gros défi hein, sur ce Vendée Globe, le sommeil. Le sommeil, il n'y a pas de problème, j'en aurais. Le problème, c'est d'avoir un sommeil de qualité, un sommeil réparateur. Quoi. Le fameux sommeil lent profond, qui est essentiel à la récupération. En fait, tout va dans le mauvais sens pour un sommeil de qualité. Hein, sur un bateau de course comme celui-là, le bruit, on dépasse les 90 décibels dans certaines conditions. Les chocs, forcément, les chocs à répétition, les températures extrêmes. Sur l'équateur, on s'approchera des 40 degrés dans le sud, des zéros. Aussi des situations qui peuvent être un petit peu anxiogènes, des situations de haute vitesse. Par 24 heures, ça sera 4 heures par nuit, peut-être, quelque chose comme ça. Voilà, ça dépend vraiment des zones qu'on traverse, quoi.
Le concurrent du Vendée Globe, Charlie Dalin, qui se raconte à Jérôme Val. C'est notre feuilleton de la semaine, épisode 4, demain.
France Inter. Le 13-14.
Le vif de l'histoire avec Jean Lebrun. Bonjour, Jean.
Bonjour, Bruno.
Dernier coup d'œil aux États-Unis dans ce 13-14 avec vous. Avec le recul, on en revient à Tocqueville pour analyser ce qui se passe. Tentative d'accéder à une forme de sagesse, peut-être.
Voilà, le vieux sachem. Tocqueville, aristocrate issu d'une famille royaliste en 1831, il va penser contre lui-même en allant aux États-Unis pour observer la marche, selon lui, inéluctable de l'égalité, son livre de la démocratie en Amérique. C'est une manière d'oracle dont les applications et les interprétations sont les plus diverses.
Alors, ce qu'il redoutait, c'est la tyrannie de la majorité. On n'y est pas aujourd'hui dans l'état de division des États-Unis.
Non, il dit, les Américains partagent un mode de vie, une appartenance religieuse, ils communient dans ce qu'ils nomment le consensus de la cupidité, ils veulent monter dans la roue de la fortune, travailler, accéder à l'obéissance, et le risque donc, c'est la tyrannie de sa majesté, la majorité. Le risque, c'est qu'ils ne prennent pas le temps de s'intéresser à la politique, qu'ils se contentent d'adhérer aux opinions toutes faites par les autres. Alors ce qui se passe aujourd'hui avec la mobilisation de tant et tant d'Américains dans des positions antagonistes, ça devrait rassurer Tocqueville. Des esprits perfides diraient même qu'aujourd'hui on risque davantage la tyrannie des minorités. L'activisme de celle-ci a provoqué en réaction un resserrement des rangs autour de Trump.
Tocqueville craignait aussi, tiens donc, la corruption du vote.
Lors de la première expérience réelle de suffrage universel en France, les législatives de Pâques 48, qui virent d'ailleurs son élection dans la Manche, les électeurs ruraux allaient à pied tous ensemble jusqu'au chef-lieu de canton. Tocqueville se félicitait qu'aux États-Unis, le vote eut lieu au plus près, dans les municipalités, qu'il fût secret. Ainsi, disait-il, les résultats parviennent vite et sont moins entachés d'irrégularités. Évidemment, la prédiction de l'oracle ne s'avère pas toujours parfaitement exacte. Mais le pire, disait Tocqueville, c'est la dissimulation ou la fraude. Il était mort quand ce fut le cas à la présidentielle de 1876. Le candidat démocrate et le républicain étaient au coude à coude. 20 mandats de grands électeurs étaient sur la sellette. Eh bien, une réunion secrète a eu lieu entre les états-majors des deux partis. Le républicain fut désigné, mais les démocrates avaient mis les conditions. Les démocrates, à l'époque, c'était les sudistes ex-confédérés. Et ben, ils avaient obtenu l'abandon de la politique de reconstruction du Sud et, de fait, le retour à la situation d'avant la guerre de sécession. Esclavage en moins, lynchage en plus. La dissimulation a des effets nécessairement délétères.
De retour des États-Unis, Tocqueville n'est pas persuadé que l'exercice de la démocratie promeuve nécessairement les libertés.
On sent l'ancien élève de sciences pour Bruno. Non seulement la démocratie peut se combiner avec l'exclusion des Noirs, mais observant les électeurs blancs de son époque, Tocqueville note qu'il verse aisément dans l'autoritarisme. 1831, c'est le premier des deux mandats du général Jackson, un homme brutal qui mène une politique terrible vis-à-vis des Indiens. Mais un homme comme les autres, le premier président après tant de personnalités aristocratiques dans lequel pouvaient enfin se reconnaître les couches populaires américaines. Et quel portrait de président Trump a-t-il voulu dans le bureau ovale?
Celui
de Jackson. Un an après avoir élu leur député pour la première fois au suffrage universel, un peu moins d'un an, les Français ont élu président Louis-Napoléon Bonaparte. Le peuple a fait basculer la République dans le césarisme. Tocqueville, qui va entrer dans l'opposition sous le Second Empire, disait « Quand j'écris sur les États-Unis, je pense à ce qui peut advenir en France.
C'est bien noté. Merci Jean Lebrun, le vif de l'histoire. À demain, dans quelques minutes, la Terre au carré. Mathieu Vidard, quel est le programme, Mathieu ?
Est-ce que vous avez un animal domestique à la maison, Bruno ?
La réponse est non.
Bon, eh bien, on va parler en tout cas de nos animaux domestiques avec l'historienne Valérie Chansigaud.
C'est noté, à tout de suite.